On a fini Luc 10, donc on est dans Luc 11 ce matin. Si vous voulez vous y tourner avec moi, on va lire le passage qu'on va étudier ce matin. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité ». Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui gardent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. La prière. C'est un texte qu'on connaît. C'est le Notre Père. Mais on a l'impression qu'il manque des petits bouts. Pour ceux qui connaissent qui c'est qui connaît le Notre Père, qui l'a déjà prié ? C'est un texte qui fait partie des meubles, en quelque sorte, pour la foi chrétienne. Et c'est quelque chose qu'on dit un petit peu sans y réfléchir. Donc ce matin, on va essayer de réfléchir un petit peu à ces choses, à ce qu'on dit quand on prie le Notre Père, quand on le chante aussi. Jésus priait un jour en un certain lieu. On va enfoncer des portes ouvertes en disant que Jésus, lui, était le Fils de Dieu et il avait besoin de prier. On le voit plein de fois dans les évangiles. Et si Jésus lui-même avait besoin de prier, alors nous, on a besoin de prier. On voit que même Jean enseignait à ses disciples comment prier. Jean, qui était un grand prophète, visiblement était reconnu d'une certaine manière pour sa prière aussi. On doit prier. Et là, de voir les disciples, de voir leur réaction, de voir leur manière de regarder Jésus prier, je me dis, peut-être d'une certaine manière, ils avaient peut-être un certain avantage sur nous, dans le sens où le fait de voir Jésus au jour le jour, tout le temps, avoir ce besoin de prier, on voit que souvent, même lorsqu'il était très fatigué, lorsqu'il était épuisé, lorsqu'il avait des choses à faire toute la journée, il se levait, il prenait du temps, il cherchait des lieux où il pouvait être tranquille pour prier. Et cet exemple, ça a dû vraiment peser dans leur esprit, dans leur cœur. Je pense pas qu'ils aient pu un jour se dire « je peux y arriver sans prière ». Si Jésus n'y arrivait pas sans prière, eux, ils avaient compris que eux n'y arriveraient pas sans. Et cet exemple, il y avait quelque chose là, on voit même la manière, ils viennent, ils lui demandent. Alors c'était peut-être à cause des traditions, le fait que les enseignants religieux de l'époque apprenaient aux gens comment prier, etc. Mais c'était peut-être aussi simplement qu'ils avaient envie de faire comme lui, et peut-être que sa manière de prier, que quand il revenait de la prière, il voyait qu'il y avait quelque chose, que c'était de là, qu'il y avait quelque chose il y avait comme une force que Jésus tirait de cette chose, et eux, ils ont vu à maintes reprises qu'ils avaient besoin de ça aussi. Ça leur donnait envie de faire la même chose. Une parenthèse. Combien de fois est-ce que Jésus apprend aux disciples comment prêcher? 0 fois. Il leur apprend à prier. C'est plus important de savoir parler à Dieu que de savoir parler aux hommes. Donc, cette version, moi, quand je l'ai lue la première fois, je me dis, elle est coupée. Peut-être qu'il y a un problème entre les évangiles, hein, la Bible n'est pas fiable parce qu'il manque de mots là, donc c'est bon, voilà, on a prouvé que la Bible c'était n'importe quoi. Le Notre Père, il n'est pas pareil là que dans Matthieu, voilà. Alors a priori, c'est deux moments différents. Si on regarde en détail, on s'aperçoit qu'en fait les choses qui ne sont pas ici mais qui sont dans le passage dans Matthieu, qui est le plus connu, sont implicites. Et connaissant les disciples, on sait que Jésus avait sans doute besoin de répéter les choses. Il a dû leur dire plusieurs fois comment prier. Et en fait, c'est pas mal ici parce que ça nous donne un modèle et pas une formule exacte. Nous, on aime bien les talismans, on aime bien pouvoir dire les mots « Sésame, ouvre-toi » et tout. On dit les mots justes et c'est bon, quoi. Si on prie le Notre Père exactement comme il faut, si on le prie en latin, les mots exacts, alors, c'est bon, quoi. En hébreu, en ce que vous voulez, on aime bien avoir un truc, un bouton sur lequel on peut appuyer, quoi. J'appuie sur le bouton, ça y est bon, je l'ai prié. Donc, en fait, c'est pas mal, là, d'avoir des différences, parce que, d'une certaine manière, ça veut dire que quand il leur donne cette chose, cette manière de prier, c'est une manière de prier, c'est pas une formule exacte. Il y a l'esprit de la prière, il y a ce qui est impliqué, qui est dit dans les choses, et on va les regarder ensemble. C'est pas juste des mots qu'on balance et auxquels on n'a pas besoin de réfléchir, comme une formule magique. Nous, des fois, dans l'église évangélique, on balance sur les catholiques à cause de ça, parce qu'on dit quand ils se confessent, on leur dit il faut prier 20 Notre Père et je vous salue Marie et c'est bon quoi. Hop, et on dit oui, alors c'est de la religiosité, etc. Mais attention, ça peut nous arriver aussi et ça nous arrive aussi. Nous, on va peut-être pas prier le Notre Père ensemble à chaque fois, mais on chante des chansons de louange. Combien de fois est-ce que j'ai chanté des chansons sans vouloir dire les mots que je prononçais, sans y réfléchir, ou même ce sermon, est-ce que je peux parler ici devant vous et demain faire quelque chose qui n'a rien à voir? Il y a le problème de nos cœurs, de notre relation avec Dieu et de ce qu'on veut dire. Les mots à proprement parler ne sont pas sont pas des formules magiques. Quelques remarques sur cette prière. D'abord, c'est bref, relativement. Peut-être que ce n'est pas assez bref pour vous. Peut-être que vous voudriez que ce soit encore plus court. Les rabbins de l'époque avaient pour habitude de dire que plus ils priaient longuement, plus mieux c'était. C'était un peu comme un concours de comment je pourrais dire d'apparence religieuse quoi. Moi j'ai prié 35 minutes sans m'arrêter quoi, sans me prendre une respiration quoi. J'ai gagné quoi. Lui il a prié que 32 quoi. Dans Ecclésiaste 5, les versets 1 et 2, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Ayons confiance que Dieu nous entend quand nous prions. Si je dis à Dieu, je viens à Dieu et que je prie et je dis « Père, aide-moi avec ça » ou « J'ai besoin de ça », il m'a entendu. Est-ce que j'ai besoin de le répéter 20 fois pour le réveiller, pour qu'ensuite il m'entende du milieu de tous les autres gens sur la... Non. Donc c'est court, c'est bref, et en même temps c'est lourd de sens et de... Il y a plein de choses là-dedans. Il y a des livres, des gens qui ont passé des années de leur vie rien qu'à faire des études et des commentaires sur cette prière. Cette prière est en deux parties. Il y a une partie Dieu. Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Ça, c'est la partie avec Dieu. C'est une partie, on pourrait dire, verticale. Et après, il y a une partie où c'est ce qui se passe pour nous sur la terre, un petit peu peut-être horizontal. Et l'ordre là, il est important. Ce n'est que quand on met Dieu à sa juste place, que quand on lui donne l'importance qui lui est due, que le reste peut suivre. On va regarder dans la prière plus en détail, mais si on ne croit rien, si on accorde aucune importance à Dieu, La prière, nos cœurs n'y sont pas. On va pas prier ces choses avec. Ce ne sont que des mots. Et ma dernière petite remarque, c'est que les mots utilisés ici, il n'y a pas de je. C'est nous et notre. Ça, c'est intéressant. C'est une prière de communauté. C'est une prière, on vient à Dieu, on le prie comme faisant partie d'une famille, quoi. On est, puis on peut le prier ensemble. Mais il y a quelque chose ici où on est, on le voit, c'est pas je, pardonne-moi mes péchés. C'est intéressant parce qu'on le remarque. Moi, je l'avais jamais vraiment remarqué avant de préparer cette étude. Alors, on va regarder ensemble. Quand vous priez, dites « Père ». Nous, on a l'habitude qu'on parle, en tant que chrétien, qu'on parle de Dieu comme étant notre Père. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était absolument pas le cas. Les Israélites parlaient de Dieu comme étant le père de leur nation, mais c'est tout. Le mot père pour désigner Dieu n'apparaît qu'une quinzaine de fois dans tout l'Ancien Testament, et à chaque fois c'est en tant que Dieu le père d'Israël. Jamais d'une personne, il n'y a jamais cette intimité. Et les scribes et les pharisiens et les dirigeants religieux avaient des manières très détournées pour parler de Dieu, faisaient très attention aux mots qu'ils utilisaient pour montrer qu'ils accordaient à Dieu l'importance, etc., etc. Quand Jésus parle comme ça, quand Jésus prie comme ça, jamais personne n'avait prié comme ça à Dieu. Personne n'avait parlé à Dieu comme ça. Et on doit avoir envie de cette relation, de cette intimité avec Dieu. Est-ce que je me sens comme un enfant de Dieu? Est-ce que vous vous sentez comme des enfants de Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu est vraiment votre père, votre papa, qui se soucie de vous et à qui vous pouvez aller tout le temps? On sait qu'on a des mauvais exemples, que pas tout le monde a eu des pères forcément dans le modèle de ce que Dieu voudrait, mais vous savez, tout le monde sait l'idéal. Tout le monde a cette idée d'un père à qui on peut aller à n'importe quel moment. Galates 4, 6 dit « Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba Père ». Et Romains 8 dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous croyons vraiment, on doit prier comme ça. Père, que ton nom soit reconnu pour sacré. Que ton nom soit sanctifié dans d'autres traductions. Pour les Juifs, ça avait l'idée d'un pas seulement d'un nom. Nous, on a souvent, c'est Lindsay et moi, on essaie de choisir un prénom et c'est difficile, mais c'est aussi intéressant de voir que c'est pas aussi lié de nos jours à une signification qui représente un caractère, qui représente quelque chose. Pour eux, c'était quelque chose qui était vraiment, c'était l'essence même de la personne qui était représentée par le nom. Dieu doit recevoir l'adoration, la révérence qu'il est en droit de recevoir. Quand on parle de Dieu, quand on utilise les mots Dieu, ou est-ce qu'il y a ce sentiment de qui il est vraiment derrière, de ce qu'il... Quand on parle aux gens, est-ce que quand vous parlez de Dieu, ils sentent que c'est quelqu'un de réel et quelqu'un avec un poids derrière? Comme dans les autres études, moi j'essaye de voir comment un enfant parle de son père. Il en est fier. Il va dire que c'est le meilleur, c'est le plus fort, c'est celui qui peut tout faire. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas des, oh, peut-être Dieu s'il veut bien s'occuper de moi, non. Pensez à un enfant qui va parler de son papa, ça donne un petit peu ce côté, quand un enfant dit papa, il y a quelque chose derrière. Peut-être jusqu'à un certain âge ou que si on a un papa, un bon père, mais, est-ce que nous, on parle de Dieu comme ça? Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, on le chante souvent. Pensons-y quand on le chante. Que ton règne vienne. On peut le voir de deux manières. Ici, on peut se dire, le royaume de Dieu va venir à un moment donné, une fois pour toutes. Dieu va mettre les choses au clair et va établir son royaume de manière définitive, un accomplissement final. Mais je pense qu'il y a aussi un accomplissement actuel. Jésus disait « le royaume est venu ». Et je pense que le royaume, il vient en la forme de personnes qui font la volonté de Jésus. Un royaume, c'est quelque part où il y a un roi. Et ce que le roi décide est fait. Et quand on dit que ton royaume vienne, ça veut dire que ton autorité soit respectée, que ce que tu veux soit fait ici. Le royaume de Dieu, ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. Et nous, moi, j'ai souvent une autre volonté. On doit se repentir, on doit changer, on doit faire ce que Dieu demande. On doit faire sa volonté. Quand on prie que ton règne vienne, ça veut dire, Dieu, pardonne-moi que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est pas un truc, oui, alors que tu viennes qu'au coin de la rue, il y ait un de tes officiers, qu'on soit bien tous ensemble, que je sois tranquille et que je puisse faire ce que j'ai envie de faire parce que tu auras calmé tout et mis toute chose en ordre. Que ton règne vienne, c'est Dieu, pardonne-moi, aide-moi à faire ta volonté. Tout de suite, ça donne un autre poids à cette prière. C'est aussi demander à Dieu de m'utiliser pour faire ce qu'il veut, de dire « je vais faire ce que tu veux ». C'est comme ça que son nom sera glorifié, que son royaume s'agrandit. C'est quand des gens font sa volonté. Rien que ces choses-là, nous souvent on a envie de prier Dieu et demander... On aime bien s'attarder sur le se demander ce que vous voulez, vous l'aurez. On aime bien prier pour nos petits besoins. Ici, souvent, on aime bien regarder surtout la deuxième partie, quoi. Donne-moi mon pain, pourvois mes besoins, pardonne-moi, aide-moi, moi. Je suis mauvais, nous sommes mauvais. Mais on doit mettre Dieu dans la bonne place. Il faut qu'il y ait cette première partie et il faut qu'il y ait une compréhension de ces choses. Pensez-y la prochaine fois que vous entendez le Notre Père ou qu'on chante la chanson. Pensez-y, c'est Dieu, je veux faire ta volonté d'abord. Je cherche ton royaume en premier. Toutes ces choses viendront après. Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Encore une fois, on s'attarde sur la deuxième partie. Mais il y a cette partie, si vous demeurez en moi, si vous restez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est que mes paroles, ce que je demande, est actif en vous. C'est-à-dire que vous faites ce que je dis. Que mes paroles demeurent en vous, c'est pas qu'on mange la Bible physiquement, hein. C'est, je veux dire, on le sait quand on y vient, mais. Et la deuxième partie de la prière, il y a trois choses. Les besoins physiques, matériels, la perfection, notre perfectionnement moral et spirituel, et puis une protection divine et sa direction. Donne-nous chaque jour notre pain de ce jour. Il se soucie de nous, il se soucie des petites choses dont on a besoin. Il sait ce dont on a besoin. On le voit quand il y a une petite fille que les gens croient décédée et qu'il la ramène à la vie et il dit donnez-lui à manger, elle a besoin de force. Il se soucie des foules quand il multiplie le pain et le poisson. Ça c'est vraiment un truc difficile. Est-ce que je crois vraiment ce que dit Jésus quand il dit « Ne vous souciez pas de ce dont vous avez besoin. » Dans le sermon sur la montagne, quand il parle et qu'il dit qu'il y a les fleurs et les oiseaux et la nature qui a ce dont elle a besoin, est-ce que nous nous soucions? Moi, je me soucie. Moi, je regarde souvent mon compte en banque. Il est pas flambant rien, mon compte en banque. J'ai pas à me plaindre. Mais je m'en soucie. J'ai peur. Faisons confiance. Vous remarquerez qu'il dit on doit prier pour du pain, pas forcément du dessert. Hein. C'est les besoins. Hein. Il peut nous donner. Dieu aime nous bénir, aime nous donner au-delà de ce qu'on demande. Mais si vous priez pour votre troisième voiture, que votre troisième voiture soit une Porsche, je vois pas comment on peut le justifier avec la Bible. Notez que qu'on soit riche ou pauvre, on doit dépendre de lui et on doit lui faire confiance. Souvent, moi, je me dis, si j'ai plein d'argent, ça va aller, quoi. J'aurai moins de soucis, j'aurai pas à me soucier de mon compte en banque. notre cœur est pareil, qu'on soit riche ou pauvre. On a toujours des trucs pour lesquels on se soucie, on a toujours des trucs pour lesquels on va avoir peur. Pensez pas que si Dieu résout d'une certaine manière votre situation matérielle, vos besoins, c'est bon, quoi. Merci Jésus, je vais aller, c'est bon, je gère, je vais y aller. Et pour moi, quand nous ne faisons pas confiance à Dieu, c'est un péché. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de la deuxième partie. Pardonne-nous nos péchés. On est d'accord, hein, qu'on a besoin de ça. Ça doit nous garder humbles. Surtout à la lumière de ce qui suit. Que nous remettions aussi sa dette à ceux qui nous doivent quelque chose. Car nous aussi, nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Vous vous rendez compte qu'on prie « Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres ». Non mais, on est en train de prier notre acte de condamnation, si on ne pardonne pas. Vous vous rendez compte? Quand j'imagine le nombre de fois qu'on entend des gens prier le Notre Père et qu'il est en train, le texte dit, si je ne pardonne pas Dieu aux gens, ne me pardonne pas. C'est fou. D'autant, enfin, il y a d'autres textes, hein, Matthieu 6, si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est ainsi, dans Matthieu 18, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est l'histoire du mauvais serviteur à qui le Seigneur pardonne et lui va prendre un ami et il l'envoie en prison pour une petite dette. On lit notre propre acte d'exécution si on ne comprend pas ces choses. On doit pardonner. C'est pas facile. Dieu dit pas que c'est facile. Il y a plein de textes qui parlent de ça. Les disciples venaient et disaient, bon, combien de fois on doit pardonner? Peut-être qu'il y a une, 7 fois c'est bien et après je peux. Non. C'est difficile de pardonner. On est fier. On tient à notre haine. Notre colère envers les gens, on a l'impression que c'est quelque chose de bon, qu'on se laisse pas marcher sur les pieds, que c'est une forme de preuve d'une certaine maturité ou quelque chose. On est tordu. Le fait de pouvoir pardonner aux gens, ça montre l'état de notre santé spirituelle. Et c'est pas seulement une commande pour être une commande. Dieu nous demande de le faire parce que c'est bon pour notre santé. Est-ce que vous avez déjà eu, quand quelqu'un vous fait quelque chose et que vous êtes là en colère, énervé contre la personne, vous savez très bien que ça vous mange. Ça vous travaille, ça vous tord l'intérieur. Il y a les émotions, il y a le côté physique et il y a le côté spirituel. Il peut avoir dans certains cas des conséquences physiques. On peut tomber malade de la colère. C'est aussi pour le bien de l'Église. Si on n'arrive pas à se pardonner les uns les autres, ben ça va pas aller très loin. On le sait ça aussi. Et aussi pour que le monde le voit. Le monde, c'est pas quelque chose de naturel de pardonner. Pensez-y, qui vous a fait du tort? Ça peut être un époux, une épouse, des parents, des enfants, des amis. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un employeur, ça peut être plein de gens. Vous avez peut-être de la colère envers les politiciens, soyez honnêtes avec nous-mêmes. Pardonnons. Je vous ferai une confession. Moi, pour vous donner un exemple, la famille des Stone qui était venue, vous vous souvenez d'eux? Ils étaient venus pour un projet dans lequel je m'étais engagé. Moi, j'ai d'une certaine manière, j'ai attendu presque 2 ans, j'ai travaillé 1 an avec eux sur ce projet, ils sont venus, puis ils sont repartis du jour au lendemain, alors que je m'étais engagé. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 ans de ma vie sur un projet sur lequel eux ne s'étaient pas engagés correctement. Et Dieu me dit, pardonne-leur. Et je lutte avec, je suis énervé, je me dis, j'ai pas envie de les voir. On m'a demandé si je voulais venir à une conférence en Californie en janvier, j'ai dit non, j'ai pas envie de les voir. Je suis humain, je vous avoue que je suis humain, on est d'accord. Hein. Et Dieu nous dit de pardonner, pardonnons. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, dans la tentation. Le mot utilisé peut vouloir dire test, épreuve, tentation. Ici, il y a une idée de tentation qui mène au péché. Dieu ne me laisse pas être tenté et que je tombe. Protège-moi de choses au-delà de mes forces. On sait que Dieu nous protège et ne nous laisse pas être tenté. Mais on doit prier, on doit être humble, on doit savoir qu'on n'a pas toute la force, qu'on est faillible et qu'on tombe quand on est tenté dans certaines situations et on doit lui demander de nous aider. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tentation si on prie ça. La tentation, Dieu s'en sert comme un outil pour nous faire grandir. Dans Jacques, chapitre 1, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. C'est comme un athlète qui s'entraîne dur, qui subit des choses, qui en quelque sorte casse son corps. La tentation, les épreuves, il va y en avoir. Mais on prie que Dieu nous épargne le plus possible parce qu'on sait qu'on est faible. Ça, c'est une acceptation de notre dépendance sur Dieu, le fait qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pour ne pas tomber. Repensez à tout ça quand vous priez la prochaine fois, quand vous entendez le Notre Père. Il y a d'autres choses, il y a d'autres remarques qu'on pourrait faire dessus. C'est marrant parce qu'on a l'impression que Jésus, il leur a dit ça, et il reste quand même quelque chose derrière. Il dit encore. On se dit qu'il y avait peut-être encore des questions, il y avait peut-être encore des choses qu'il se demandait par rapport à comment prier. Et là, il leur raconte une petite histoire pour leur donner plus d'indications, cette histoire de l'ami qui vient, qui, au milieu de la nuit. Il dit pas que Dieu c'est un ami qui dort et qui veut pas vous ouvrir la porte et qu'il faut taper plus fort pour le forcer. Hein. Il dit si quelqu'un comme ça va ouvrir la porte, alors Dieu qui lui est bon et qui a envie de vous répondre, lui va vous répondre. Lui va être là, lui va entendre. Il y a une parabole aussi dans Luc 18 à propos d'une veuve et d'un juge avec un petit peu la même idée. De la veuve qui vient, et au final le juge qui dit bon d'accord je vais faire ce que tu me demandes quoi je vais et là aussi c'est pas que Dieu est comme ça c'est du pire au meilleur si nous mauvais que nous sommes on est capable de donner de bonnes choses alors Dieu lui va d'autant plus dans cette histoire on voit que l'ami enfin, que la personne qui vient, elle prie avec insistance, avec persistance. Il y a l'idée qu'elle ne s'arrête pas. Elle reste là, sans gêne, sans honte. Encore une fois, on peut penser à un enfant. Avec son père, il va pas se gêner, il va pas se dire, d'accord, je l'ai dit une fois, hein. Je vis pas encore pour la pratique, hein, mais. Combien de fois est-ce qu'on arrête parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir reçu de réponse? On est faible avec ça. On est faible parce qu'on veut juste une réponse et on veut juste une parce qu'on est feignant. On a envie de dormir plutôt que moi j'ai envie de dormir plutôt que de me lever plus tôt pour prier. La prière, c'est quelque chose souvent qui nous change nous plus que Qu'est-ce que ça change quelque chose au niveau de Dieu, hein? Et c'est pour ça aussi, d'une certaine manière, je pense qu'on a du mal à être persistant, à insister. Ça demande de la discipline, ça demande de la répétition, ça demande que nous, on change. Nous, on prie pour ne pas avoir à changer, souvent. Et il prie avec une confiance, avec une attente de réponse, avec l'idée que la personne à qui il demande va répondre et peut répondre. On voit aussi cette confiance dans ce que Jésus dit ici, où il dit « demandez, cherchez, frappez ». C'est pas pour mériter, c'est pas si je le fais assez, alors j'obtiens. C'est l'inverse, c'est mon cœur, c'est parce que je sais que Dieu va répondre que je continue de prier. C'est pas une œuvre pour mériter quelque chose, mais c'est un acte de foi, pas un rituel, pas un sésame, mais une dépendance. Sur la prière, il y a tellement de choses à dire. Peut-être simplement pour clore sur la prière. L'objectif, c'est pas que j'obtienne ce que je veux, hein. Le début d'une autre prière, on l'a répété, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Moi, j'ai toujours du mal à accepter ça quand je prie, hein. On a besoin de ce que Dieu nous apprenne à prier. On a besoin de ça. On a besoin de venir à Dieu, à Jésus, comme les disciples sont venus à lui et de dire apprends-moi à prier, apprends-moi à comprendre ce que tu veux, apprends-moi à comprendre ta volonté, apprends-moi ce qu'est la prière. Et on peut être sûr d'une chose et on doit avoir confiance en lui qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de ses réponses et il va nous donner de bonnes choses. Il va nous remplir de son esprit pour aider à vivre comme il le veut, à vivre comme on doit vivre. Mais c'est quelque chose qu'on doit demander avec insistance, avec persistance et avec la confiance que Dieu nous donne quand on demande. Verset 14, il chassait un démon qui était muet. Aujourd'hui, un muet, il peut écrire, il peut tapoter sur son téléphone portable, il peut utiliser Internet, il peut s'exprimer. À l'époque, peut-être qu'il pouvait tracer des choses par terre, mais ça devait être horrible à l'époque. Pour les juifs de l'époque, quelqu'un comme ça était... C'était fini pour lui, parce que les gens qui jetaient les démons, qui exorcisaient, pensaient qu'ils avaient besoin de savoir le nom du démon pour arriver à agir. Ils avaient des rites, ils essayaient de trouver le nom du démon. Il y a un épisode avec Jésus quand le démon lui dit « Nous sommes légions ». Il y avait quelque chose où, comme on l'a dit avec le nom de Dieu, les noms, c'était quelque chose de plus important à cette époque-ci. Et donc quelqu'un qui avait un démon muet, ceux qui exorcisaient à l'époque, ils ne pouvaient rien faire. Tout leur rituel tombait à l'eau. Donc c'est pour ça que les gens sont étonnés. C'est pas la première fois qu'on l'accuse de faire partie des troupes de Satan. Jésus, il y a deux autres endroits dans Matthieu. Belzébul ou Belzébub, ça vient de deux rois. Ce que ça veut dire exactement, on n'est pas sûr. Seigneur des mouches ou seigneur de l'habitation. C'était une insulte, c'était le rapetisser, c'était dire... C'était vraiment lui cracher au visage que d'utiliser ce nom. Ici, on voit aussi on en a déjà parlé, mais ce problème avec les signes, avec nos cœurs mauvais. On voit un miracle et on dit on en veut un autre. On voit un miracle et on dit on a une explication rationnelle pour ce rien du tout, en fait, c'est pas un miracle. Il y en a certains qui disent oui, il a fait un miracle, mais c'est parce qu'il est avec Satan. Il y en a d'autres qui disent, bon, bah, c'est un miracle, mais c'est un miracle terrestre, et pour être sûr, on aimerait un miracle un peu plus avec Dieu, quoi. Ça, c'est un truc, peut-être que quelqu'un peut arriver à le faire, mais ils veulent un miracle du ciel, ils tentent Dieu, ils veulent le mettre à l'épreuve. Ça fait peur de se dire qu'on peut être si aveugle, qu'on voit pas la différence entre Satan et Jésus, entre les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan. Soyons humbles. Prions Dieu de nous donner sa compréhension, de nous aider à discerner par son esprit. Il leur dit, en quelque sorte, qu'il est contre Satan, qu'il mène tout son ministère, c'est contre Satan. C'est contre les démons, c'est contre les œuvres de Satan. Et il dit, mais on peut pas être... C'est de la logique simple, hein. Un royaume qui est divisé, s'il y a deux princes qui se battent, ça finit mal. On le voit dans plein de pays de nos jours, dès qu'ils se divisent et qu'ils se mettent à se battre et qu'il y a différents rois, ou factions, ou partis politiques, etc., ça tombe. Donc il leur dit c'est déjà pas très, très bon. Puis il leur dit, si moi c'est par Satan, vous les gens qui exorcisent là, ceux qui sont là, c'est par quoi qu'ils le font alors? Ils font la même chose. Donc vous êtes en train de dire qu'ils sont aussi de Satan. Il dit, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et il leur dit, attention, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est la force de Dieu, alors c'est que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous et vous l'avez pas vu. C'est tellement beau. Jésus est tellement miséricordieux. Il y a des gens qui lui crachent au visage et il cherche quand même à raisonner avec eux, à les tourner, à dire non, mais réfléchissez, voyez, pesez le, attention, quoi. Vous êtes en train de vous condamner vous-même. vous trompez. Il a tellement d'amour, il veut tellement continuer, même malgré tout ce qu'ils peuvent lui faire. Le verset 21 et le verset 22, Jésus parle de lui-même. Satan, c'est l'homme fort et bien armé qui garde sa propriété, qui garde la vie d'un homme. Et il y a quelqu'un de plus fort, c'est-à-dire Jésus qui vient et qui lui enlève ses armes. Colossiens 2:15 nous dit, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ils sont en sursis. Verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. On ne peut pas être neutre dans la guerre spirituelle. Ceci est une vérité inamovible. Soit on est avec Jésus, soit on est contre. Et la partie qui suit, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce passage. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. » Quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher sept autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent là et s'installent, et la condition dernière de cet homme, là, est pire que la première. Et en étudiant, je vois deux choses. C'est l'idée que quand on essaye d'être neutre, on se dit « ouais, je suis... » qu'il y a un vrai risque de se retrouver dans une situation pire qu'avant. Et aussi et surtout, je pense que c'est l'idée que si on essaye de faire le nettoyage dans nos vies, nous-mêmes, si on essaye de se dire « je suis bon, je vais faire les choses par moi-même, je vais vivre bien, je vais à peu près... le mal que je fais, je vais arrêter un peu de le faire, ça va être bien, mais si je mets pas Jésus en moi, derrière il va y avoir des conséquences. On va se retrouver dans une situation pire qu'avant. On a une approche de la religion qui est de dire je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, etc. On fait une liste de choses qu'on ne fait pas. Le mal qu'on enlève. Mais Jésus est en train de dire, le tout, c'est pas d'enlever le mal. Le tout, c'est de mettre le bon dedans. Le mal part quand on met le bon dedans. en termes simples. Il y a la place pour quelque chose, une chose, et soit c'est mal, soit c'est bien. Et c'est pas le fait d'enlever le mal qui sauve. Il va y avoir quelque chose dedans. On enlève le mal, il y aura quelque chose d'autre de mal. On a besoin de remplir nos cœurs avec l'Esprit Saint. On a besoin que Jésus vienne en nous. Autrement, c'est cette idée. Il y a quelque chose de pire qui va revenir. Qui sont ceux qui sont de son côté? Ce sont ceux qui lui obéissent. Être du côté de Jésus, ne pas être neutre, c'est pas choisir des mots ou porter le t-shirt, c'est faire ce que Jésus demande. Et c'est ce qui vient au verset 27 et 28, avec la femme qui élève la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité », lui qui répond « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent ». Là, il y a un moment de... C'est un beau moment d'émotion. Peut-être un moment un peu... Il y a peut-être un calme, un faux calme qui s'installe. Il fait le miracle. Les pharisiens l'accusent. Il y en a d'autres qui demandent un signe. Puis lui, il enseigne. Et on a l'impression que là, il y a un creux, il y a la foule et il y a une femme qui crie. Et lui, il contredit pas que Marie soit bénie, mais il dit... Voilà quelque chose de plus, de mieux. Vous pouvez être plus béni que Marie. Je peux être plus béni que Marie. Nous pouvons être plus bénis que Marie en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Et peut-être le dernier petit point. Faites attention au moment d'émotion. Dans la louange, dans le dimanche matin, dans vos vies de tous les jours. Ne confondez pas une émotion que vous ressentez ici en écoutant quelqu'un, moi ou un autre, en vous disant il y a quelque chose, ça m'a affecté, ça m'a touché. Faites attention, ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas endormir par ce sentiment-là. C'est pas tout. Le tout, c'est de faire ce qu'on a entendu. L'important, c'est de tous les jours choisir d'étudier la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et c'est la recette très simple pour être béni. Faites attention. On est humain, on aime les émotions, on aime les sentiments. Combien de rassemblements, de réunions de prières, de choses, on a envie de sentir quelque chose, on a envie de se... Et ça ne veut pas dire que c'est rien, ça peut être l'Esprit qui nous parle. Mais Dieu ne nous dit pas... la Bible ne nous dit jamais, on l'a vu ces dernières semaines, la Bible ne dit jamais... Heureux êtes-vous parce que vous avez entendu la parole. Non. La Bible répète fois après fois, gare à vous si vous entendez que vous ne mettez pas en pratique. Gare à vous. Gare à moi. On doit agir. Et c'est aussi ce qu'on dit quand on prie le Notre Père, juste enfin. Prions. Ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Jésus, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit. Remplis-nous pour que nous puissions prier cette prière en toute humilité et toute vérité, Seigneur. Que ces mots pèsent sur nos cœurs et Jésus, aide-moi, aide-nous à faire ta volonté. Sois glorifié ce matin, que ton nom soit élevé par nos actions, Seigneur, ce matin. cette semaine dans nos vies. En ton nom, nous prions. Amen.